n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
La MJC Popcorn met à l'honneur la culture iranienne pour la 22e édition du Printemps des Écritures. Dans quelques minutes, vous entendrez Rezvan Zaidi, artiste iranienne exilée à Paris.
Réouverture des musées de l'Ain, on vous emmène au musée du Revermont pour découvrir la nouvelle exposition autour des herbiers.
Et tout de suite, votre actualité en bref.
Bourque en bref.
Plus d'une cinquantaine de personnes devant la préfecture de Bourque après l'annonce d'un nouveau 49-3.
Jeudi dernier, dans l'après-midi, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé le passage en force de la réforme des retraites avec le recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est la 11e fois qu'elle l'utilise. Le record est détenu par Michel Rocard avec 28 recours au 49-3. On écoute un extrait de l'annonce d'Elisabeth Borne dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Cette réforme est nécessaire. Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot.
Madame la Première ministre, je vous remercie.
Un véritable brouhaha dans l'Assemblée et il n'a pas fallu longtemps avant que les syndicats appellent un rassemblement. Dès 18h30 devant la préfecture de Bourg-en-Bresse, des dizaines de personnes se sont réunies. La police est venue encadrer la manifestation quelques minutes plus tard et les personnes présentes étaient très remontées par cette décision du gouvernement.
La seule démocratie, c'est ici. La seule démocratie, c'est ici. La seule démocratie, c'est ici.
Moi, je m'appelle James, je suis donc assistant d'éducation au collège de Brou. On a vu la nouvelle un peu comme tout le monde et pour nous, c'était une évidence de sortir pour montrer notre seul moyen d'expression. C'est dans la rue.
Marie-Pierre Maupoint, je suis au syndicat Sud Travail Affaires Sociales du ministère du Travail. Je suis très très écœurée de la manière dont se passe tout ça. C'est vraiment un déni de démocratie. La majorité de gens dans ce pays sont contre l'allongement de la durée légale pour pouvoir prétendre à partir à la retraite. C'est une réforme profondément injuste et on l'a répété plusieurs fois, notamment pour les femmes, les carrières écourtées. Voilà, donc c'est ceux qui subissent la précarité dans ce pays, ils sont encore très nombreux, vont faire les frais de cette réforme vraiment injuste. On s'y attendait aussi, hein, ce 49-3, mais c'est d'autant plus scandaleux qu'ils nous parlent de démocratie parlementaire alors qu'ils ne veulent pas du tout soumettre ce vote à l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment le déni de démocratie, c'est une forme de dictature parlementaire qui nous impose dans ce pays. C'est un véritable scandale, quoi.
Maintenant que la nouvelle est tombée, qu'est-ce que vous attendez ?
Bah là, très honnêtement, on est très énervé, donc le peuple est énervé. Et pour moi, la seule solution, c'est une motion de censure. Et je vois que ça, voilà.
Moi, j'espère qu'il y aura une motion de censure. J'espère que les députés voteront majoritairement la motion de censure. Moi, je suis pour que ce gouvernement y dégage. Évidemment, de toute façon, Borne n'a aucune légitimité. Mais même un autre gouvernement, Macron, n'a plus du tout de légitimité, en fait. Mais le mouvement social qu'il y a aujourd'hui est historique dans ce pays. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une intersyndicale unie aussi. Et des travailleurs qui, majoritairement, rejettent cette réforme qui est profondément injuste et discriminante.
Macron, fumier, on va te composter.
Une fois que le gouvernement engage sa responsabilité en utilisant l'article 49 alinéa 3, l'opposition peut voter une motion de censure. Pour cela, il faut la majorité des votes de l'Assemblée nationale, soit 287. Sachant que les groupes opposés au gouvernement représentent en tout 257 voix, il faudrait encore que 30 élus, LR ou Renaissance, votent pour une motion de censure.
Alors, on en est où aujourd'hui, Inès ?
Deux motions de censure ont été déposées, une par le groupe d'extrême droite et une par le groupe centriste Liot, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Cette dernière est une motion dite transpartisane qui veut rassembler tous les partis en opposition à la réforme. Depuis 16h ce lundi 20 mars, les députés sont appelés à voter ces motions de censure qui ont pour objectif de renverser le gouvernement. En tout cas, l'intersyndicale prévoit déjà une mobilisation massive ce jeudi 23 mars.
Est-ce qu'une motion de censure a déjà renversé un gouvernement ?
Une seule fois en 1962, Charles de Gaulle est alors président. Il veut instaurer l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Avant, il était élu avec les députés et les sénateurs notamment. Une réforme impopulaire auprès du Parlement qui dépose une motion de censure votée à la majorité. Le gouvernement est dissous. Charles de Gaulle décide alors de dissoudre l'Assemblée. Elle devient alors favorable à de Gaulle qui peut donc faire voter sa réforme. Une seule motion de censure votée donc, mais à la fin, le président a quand même gagné.
Le nouveau rapport du GIEC est sorti.
Ce lundi, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat publie sa synthèse de 8 ans de travaux. Ils estiment qu'il est encore possible de limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés par rapport à 1850. Mais il faut un sursaut international pour cela. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1,1 degré.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Un technicien de la tannerie placé en centre de rétention.
Originaire des Caraïbes, Shorn travaillait à la tannerie à la suite d'un parcours de réinsertion après une peine de prison. Il était aussi placé sous une obligation de quitter le territoire français. La préfecture de l'Ain l'a mis à exécution vendredi 17 mars. Les autorités l'ont emmené au centre de rétention administrative de l'aéroport de Saint-Exupéry pour qu'il quitte le territoire français. Son sort est très incertain. La tannerie a dû annuler les événements du week-end dernier. À la place, un rassemblement de soutien était organisé le samedi. On écoute un extrait du discours de Gilles Garrigos, le directeur de la salle de concert.
On a mis en place ce rassemblement au dernier moment pour répondre à une urgence, pour soutenir quelqu'un qui est vraiment cher à notre cœur, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation dramatique, puisqu'il est, il a été emmené hier matin en centre de rétention à l'aéroport Saint-Exupéry, qui est en instance d'expulsion. On ne sait absolument pas les perspectives juridiques pour les heures et jours à venir, sachant qu'il n'a plus de recours évident juridique. Désormais, en gros, toutes les portes sont ouvertes pour qu'il soit expulsé. Donc on est en train de réfléchir à quelle stratégie mener pour pouvoir le sortir du centre de rétention et faire qu'il reste ici et qu'ils reviennent travailler à la tannerie, puisque c'est quelqu'un d'essentiel au lieu et que tout le monde a vraiment envie de le voir revenir.
Hier, une demande a été déposée pour faire sortir le technicien du centre de rétention. Elle a été rejetée. Son avocat fait donc appel à cette décision et une nouvelle audience a lieu ce mardi 21 mars. La tannerie va ouvrir une cagnotte en ligne pour soutenir Shorn dans ses démarches.
C'est le retour de la quinzaine citoyenne.
C'est du 23 mars au 6 avril et cet événement annuel organisé par la mairie de Bourg-en-Bresse permet aux Burgiennes et aux Burgiens de rencontrer le maire ou ses élus pour échanger avec eux. Il y a une réunion pour chaque quartier et le premier rendez-vous c'est au Baudière à l'école Charles Robin le jeudi 23 mars à 18h30. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur le site de la mairie de Bourg-en-Bresse.
La JL Bourg organise son job dating ce mercredi.
C'est de 10h à 19h à Equinox. Plus de 300 entreprises partenaires de la JL seront présentes pour recruter de nouvelles personnes. C'est ce 22 mars et vous pouvez vous inscrire en amont de l'événement sur le site de la JL Bourg ou bien directement sur place. Au programme aussi, des ateliers pour améliorer son CV et se préparer aux entretiens d'embauche.
Et ce jeudi, c'est le lancement du printemps des écritures.
Le 23 mars à 18h à l'AMCC de Bourg-en-Bresse, vous pourrez rencontrer deux artistes iraniens et assister à une performance de calligraphie en musique. C'est gratuit et le printemps des écritures est organisé par la MJC de Bourg. On vous explique tout dans quelques minutes avec nos invités du jour.
L'invité de Radio B.
Le printemps des écritures, 22e édition, ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 7 avril. La culture iranienne et en particulier la calligraphie persane sont mises à l'honneur. Deux artistes iraniens participent au festival, Younes Faghi et Rezvan Zaidi. Ils sont tous les deux membres de l'atelier des artistes en exil. Dans quelques minutes, vous entendrez le photographe Rezvan Zaidi. Mais tout de suite, on retrouve une partie de l'équipe de la MJC Popcorn de Bourg-en-Bresse.
Bonjour, Nadège Tissot, directrice de la MJC Popcorn, la MJC de Bourg-en-Bresse.
Bonjour, Marion Malavieille, chargée de mission culturelle à la MJC Popcorn.
Bonjour, Justine Broyer, chargée de communication à la MJC Popcorn de Bourg-en-Bresse.
Alors, bonjour à toutes les trois. Vous venez donc aujourd'hui à Radio B pour nous parler de la nouvelle édition donc, du printemps des écritures. Et donc, pour cette nouvelle édition, la MJC Popcorn met à l'honneur l'Iran. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
Alors, la thématique de l'Iran cette année fait suite à toute la répression contre les femmes en Iran. Alors, vous allez me dire, depuis longtemps, il se passe des vilaines choses en Iran. Mais là, en fait, le moment de la programmation en septembre va avec la mort de Mahsa Amini et ça a motivé en fait le choix pour mettre à l'honneur des artistes iraniens qu'on essaye de voir autrement la culture iranienne que par toutes les violences que l'on voit à la télé ou aux infos. Et voilà, c'est ça la première motivation.
Et quel est le lien entre l'Iran et l'écriture ?
Eh ben, c'est de la calligraphie persane, voilà déjà. Donc, il nous tient à cœur de proposer différentes calligraphies. Là, cette année, donc, on aura la calligraphie persane, on aura la calligraphie japonaise, on a la calligraphie latine, et puis du calligraffiti, on va dire, avec du street art également.
Comment vous avez choisi ces artistes ?
Eh bien, c'est en poursuivant la mission d'accompagnement auprès d'artistes professionnels dans leur processus de création que l'équipe de la MJC a découvert ces artistes dont Younes Faghi et Rezvan Zaidi par l'intermédiaire de l'association l'Atelier des artistes en exil qui est à Paris. Et donc c'est naturellement qu'est venue cette idée de mettre en avant l'engagement artistique de ces deux artistes iraniens et les multiples aspects de la culture iranienne.
Ça s'adresse à quel public, ce printemps des écritures ?
Ça s'adresse à tous les publics, bien évidemment. Cette année, on a particulièrement orienté sur des publics éloignés de la culture, ce qui sont les missions principales de la MJC. Mais c'est vrai que le printemps était vraiment pour le tout public et familial. Et là aussi, on a orienté en direction des publics éloignés ou fragilisés. On va intervenir au CPA, on intervient aussi beaucoup avec le centre social de la Ressouze, qui vont venir faire des ateliers animer des ateliers à la MJC. On a aussi une exposition qu'eux ont fabriquée.
Ça, on va reparler dans quelques minutes.
Ouais. Et puis, on intervient aussi à Orsac. On va proposer aussi deux ateliers en LSF, voilà, pour que tout le monde...
Donc,
en langue des signes française. Voilà, pour que tout le monde puisse accéder donc, à la calligraphie.
Vous avez dit donc notamment donc cette participation du centre socioculturel de la Grande Ressouze, qui est notamment associé au printemps des écritures par le projet Art et Langue. En quoi il consiste ?
Alors, ce projet, le centre social de la Grande Ressouze, c'est un partenaire avec qui on fait des actions tout au long de l'année. Et là, ils venaient de terminer leur projet Art et Langue autour de la thématique de l'exil avec des apprenants de la langue française. Et donc, on a souhaité mettre en avant ce beau projet et On va faire une exposition qui retrace du coup les ateliers d'écriture, de linogravure et de typographie qu'ils ont réalisés pendant ce projet. Et ça nous permettait aussi d'élargir notre thème à l'Iran, mais aussi à l'exil en général. Et ce partenariat a renforcé notre volonté de rendre ce festival social et multipartenarial.
Avant de terminer, on peut faire un point sur des événements qui sont prévus pendant donc ce printemps des écritures.
Entre le 24 mars et le 2 avril, des ateliers d'initiation gratuits notamment et des stages pour tous dans différents lieux de Bourg-en-Bresse, donc à l'université, au centre social de la Ressource, du plateau, H2M notamment, et avec une programmation plus importante sur le week-end du 1 et 2 avril.
Donc oui, parce qu'on rappelle, le printemps des écritures, c'est du 20 mars au 7 avril.
En résonance avec la thématique du festival cette année, l'AMJC Popcorn propose aussi un ciné-débat dans le cadre du dispositif passeur d'images. Et donc c'est un documentaire iranien de 2014 qui s'appelle « Profession documentariste ». Et la projection aura lieu le lundi 3 avril à 18h30 à la MCC de Bourg-en-Bresse. Elle se fera en présence de la cinéaste iranienne Sahar Salachour, qui interviendra ensuite.
Le vernissage du Printemps des Écritures édition 2023, c'est ce jeudi le 23 mars. L'artiste iranien Younes Faghi, accompagné de la musicienne Atefe Faghi, proposeront une performance en direct de musique calligraphie. Rezvan Zaidi, photographe iranienne, sera aussi présente. L'occasion de parler de ses photos et d'échanger sur la discrimination des femmes en Iran, le thème principal de son travail. Sa participation au Printemps des Écritures à Bourg-en-Bresse est une nouvelle occasion pour s'exprimer grâce à ses photos et d'échanger avec d'autres personnes. On écoute Rezvan Zaidi, nous lui avons posé quelques questions par téléphone.
Je suis Rezvan Zaidi, photographe iranien. Que depuis 2015, je suis en France.
En quelques mots, comment vous pouvez décrire votre art ?
Toujours qui était sur la situation des femmes, droits des femmes, la discrimination. Que moi, je viens d'enregistrer tous ces éléments par la photographie.
Rezvan Zaidi a 36 ans, elle est née en Iran. Son bac en poche, elle devient photojournaliste. Rezvan prend surtout en photo des graffitis. Elle en fait même sa spécialité. À 26 ans, dans son pays, elle organise une exposition clandestine. Son travail est engagé, ses messages politiques. 2 ans plus tard, elle arrive en France. Elle vit aujourd'hui à Paris et est membre de l'atelier des artistes en exil. Cette association accompagne les artistes exilés, quelle que soit leur origine et leur discipline artistique. Le régime iranien, la République islamique, prône la tolérance zéro pour ses opposants. Et il y a encore quelques mois, son président, Ebrahim Raisi, a affirmé qu'il n'y aura, je le cite, « aucune pitié pour ceux qui sont hostiles à la République islamique ». La situation des femmes est catastrophique en Iran et c'est encore plus difficile et dangereux quand on est une femme et une artiste.
Ça peut être vraiment difficile. Une femme artiste vient de parler contre les lois que les mollahs ils ont écrites pour les femmes. Et ça, c'est vraiment, ça peut être très dangereux pour une femme artiste parce que déjà, elle a cassé les tabous comme une femme qui vient de parler sur cette situation, sur les lois qu'ils ont contre les femmes. Ça peut être très difficile et dangereux pour une femme artiste.
Les femmes n'ont pas le droit de dénoncer leur situation et encore moins de le faire par n'importe quel moyen, et en particulier par l'art, qui peut toucher le plus grand nombre. En clair, le régime ne veut pas que les Iraniens se posent des questions.
Le peuple iranien, les femmes iraniennes ont commencé des manifestations pour leur liberté. Depuis 6 mois que ça passait cette manifestation, et les mollahs qui a commencé de tuer beaucoup de femmes, de menacer beaucoup de femmes et ou aussi de prisonnier beaucoup de femmes et les hommes qui est venu dans la rue pour soutenir les femmes.
Rezvan Zaidi est très contente que ces femmes aient trouvé ensemble la force de défendre leurs droits et leurs libertés. Et ceci, pendant plusieurs mois, elle salue leur courage et se rappelle qu'il y a quelques années, elle vivait la même situation.
C'était une chose qui était dans ma vie, que moi j'ai vécu quand j'étais petite. C'est pour ça que quand je vois, même que je suis en France depuis 2015, quand je vois le demande des femmes iraniennes pour leur liberté, je me souviens que moi aussi, dans cet moment, j'étais en Iran et j'étais dans la censure. Même qu'aujourd'hui, je suis aussi dans la censure par les mollahs. C'est pour ça que je peux transférer très facilement dans mon travail. Il est une partie de ma vie.
La photographe iranienne est heureuse d'être en France et d'avoir cette liberté d'expression, d'exposer ses photos sur les femmes en Iran. Elle n'oublie pas aussi toutes ces femmes qui se sont battues en France pour défendre leurs droits et leurs libertés. Rezvan Zahedi sera ce jeudi au vernissage du Printemps des Écritures. C'est à 18h à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté. Et ce festival culturel dédié cette année à l'Iran commence dès ce lundi 20 mars et c'est jusqu'au 7 avril. Beaucoup d'événements sont gratuits et il y a aussi quelques ateliers payants. Retrouvez toute la programmation du Printemps des Écritures sur la page Facebook de la MJC et sur leur site internet www.mjc-bourque.fr. Et ils font aussi un appel aux bénévoles pour participer avec l'équipe de la MJC à l'organisation de ce Printemps des Écritures. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter via le site internet.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans.
En reportage avec Radio B.
Les musées du département ont rouvert leurs portes ce 15 mars.
L'occasion pour nous de découvrir en avant-première la nouvelle exposition du musée du Revermont à Cuisia. Elle revisite l'art de l'herbier. Nous avons assisté à son installation. Nous avons suivi Katia Mollet qui dirige le musée.
Je vais juste vous faire un petit, une petite introduction assez rapide pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas forcément comment se prépare une exposition, puisqu'on part d'une liste, d'une envie en fait de travailler sur un projet, et puis on sélectionne des œuvres en conséquence, et on a notre petit fil de parcours qui petit à petit monte dans nos têtes, et ensuite qu'on vient tranquillement préparer avec des cimaises, des vitrines, etc. Et on voit comment s'intègrent les œuvres. Ici, vous avez donc la première partie qui est la partie introductive sur qu'est-ce qu'est un herbier. On sait tous, on a tous, je crois, et je crois que c'est encore le collectif des écoles en ce moment. On fait tous des herbiers quand on est petit. On va dans la forêt chercher nos petites feuilles et puis on les collectionne, on les garde, on a... Peut-être, vous avez peut-être les herbiers de vos enfants, de vos petits-enfants qui se promènent. C'est quelque chose qui est assez ancestral, puisque le premier herbier, il date de 1600 et des poussières, puisque c'était le jardinier du roi qui collectionnait les feuilles et les plantes des différents domaines. Et en fait, cet herbier, il a été conservé, il s'est petit à petit... agrémenté, puisqu'il y a maintenant quasiment 8 millions de planches dans un herbier qui est au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, que vous pouvez consulter. Il est numérisé et du coup, il y a pas mal de choses. Il y a 4740, je crois, espèces qui sont répertoriées. Donc, on peut petit à petit travailler dessus. Donc on va expliquer dans cette première partie. Alors on vous a mis, on n'a pas toutes les œuvres, vous imaginez bien, on aurait adoré déjà vous les montrer, mais c'est aussi le principe des coulisses. Donc vous avez un peu aussi comment on prépare les expositions. On met à chaque fois sur chaque vitrine, chaque cimaise, ce qu'on aura et comment on envisage de monter les expos. Et peut-être que je peux vous montrer déjà cette œuvre qui sont, puisqu'on a... essentiellement les œuvres d'art contemporain qui sont en train d'arriver, puisque les œuvres graphiques sont très fragiles et qu'on essaye de les exposer le moins possible avec une lumière quand même assez réduite. C'est aussi pour ça que dans les expositions, par moment, on se dit « Ah, c'est très très sombre », mais c'est aussi pour conserver les œuvres. Et peut-être que je vais vous les découvrir. Donc ça, ce sont des cyanotypes d'Alinéo. Je vous les découvre tous, ces gens qui sont qui vont être en double face. Alors, je ne vais pas enlever le dos. On est en train encore de travailler dessus.
C'est quoi concrètement un cyanotype ?
Un cyanotype, alors c'est une technique qui est à la fois avec le verre, les plaques de verre. C'est un procédé chimique. Alors, donc elle dépose sa première couche et ensuite elle vient avec un ustensile très légèrement dessiné dessus. Et ensuite elle referme ses plaques et ça sèche comme ça. En fait. Donc c'est très 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 fin en fait. On a la chance d'avoir Didier Roussary avec nous, qui a beaucoup travaillé sur la nature, sur les feuilles. Allez-y, entrez dans l'espace privilégié, je vais moins sortir. Voilà.
Alors, il y a différents travaux. Oui. En fait, le rapport à ça, ce sont des feuilles basiques d'arbres, de chênes, du gui,
platane,
vigne vierge. Moi, je me suis dit, je vais prendre cet élément-là, une feuille. Alors, suivant évidemment la forme, plastique, moi j'aime assez qu'elles évoquent quand même l'idée de sculpture. Et je la conserve en fait. Je la mets hors du temps. Voilà, elle sort du cycle et elle devient, une archive.
Comment vous avez fait pour choisir ces feuilles? C'était dans des balades?
Oui, c'est ça, ouais. Je suis assez amateur de promenades et un peu comme on peut collectionner des cailloux, des galets, certains, sans que ce soit forcément des pierres précieuses, ils ont quand même aussi une beauté.
Et pour les conserver, il y a des produits?
Oui, alors la boîte, c'est une boîte d'aluminium que je patine. Et la feuille, alors quelquefois je les ai humidifiées pour essayer de voir quelle forme naturellement elles reprenaient.
Et
il y a un traitement, voilà, le séchage est naturel. Par contre, la feuille est vernie. Après, une fois qu'elle est fixée, elle
pulvérisée.
Oui, pulvérisée. Ouais. Là, j'ai récupéré, c'est pas des feuilles, c'est des toiles d'araignée que je récupérais. Et que je fixe à l'intérieur des boîtes comme ça. Et là, et celle-ci, je l'ai peint en plus. Mais l'idée, c'est toujours la même, c'est de créer une forme d'archive très esthétique, en fait.
Vous pourrez découvrir la totalité de l'exposition Herbier Mémoire Végétale à partir du 2 avril et jusqu'en novembre prochain au musée du Revermont à Cuisiat. Des ateliers et des visites sont aussi organisés, notamment des visites flash en 15 minutes pendant les heures d'ouverture, pas besoin de réserver, et aussi un événement spécial pour Pâques avec une enquête au jardin à résoudre. Ce sera du 12 au 16 avril. C'est 7 euros l'entrée pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans. Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90 FM. Belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent, comme nous sommes des étrangers, il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.